1, 2, 3. Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen. Et ce soir dans Ping Pong, un historien qui dit « je » en poursuivant un fantôme et un romancier qui joue le jeu dangereux du thriller avec notre histoire et notre avenir. Et puis un clown, des monstres et des héros.
Ping Pong, la culture sans limite. Ping Pong.
Ce soir, un ping-pong armé de culture populaire au sens le plus noble, avec l'historien Gérard Noiriel qui l'utilise comme vecteur de transmission face aux oublis de l'histoire. Exemple avec le clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française, le jour de la sortie du film de Roche Dizem avec Omar Sy, pour lequel il a été conseiller scientifique. Il nous parle aussi de l'expo et du livre qu'il consacre à cet homme, son nom. Et avec Sabri Louattar, romancier volontiers populaire et série maniaque, qui publie le quatrième et dernier tome de sa politique fiction Les Sauvages chez Flammarion, et bientôt adapté pour Canal+.
Mathilde Serrel, Martin Kénéen, Ping Pong.
Lui a voulu être historien pour défendre les opprimés. Et ce souffle ne le quittera jamais. S'intéressant d'abord à l'histoire de la classe ouvrière, il va participer activement au développement de la socio-histoire et devenir un des pionniers de l'histoire de l'immigration en France. À l'École des hautes études en sciences sociales, où il est directeur d'études depuis 1994, il travaille à défaire à sa manière ce que Claude Lévi-Strauss appelle le « eux » et le « nous ». Pas du genre à s'asseoir sur ses idéaux. En 2007, il quitte le conseil scientifique de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration pour protester contre la création le même jour du ministère de l'immigration et de l'identité nationale par Nicolas Sarkozy. Clac ! Pour défendre aussi les opprimés de l'histoire, il va élargir le spectre des colloques et autres revues scientifiques pour toucher un plus large public. Il crée l'association culturelle d'Aja qui aboutit aujourd'hui à sa collaboration sur le film Chocolat de Roche Dizem, mais aussi à une exposition à la Maison des Métallos à Paris et un livre, un roman vrai. Il aura sauvé au moins un opprimé de l'histoire, le premier artiste noir de la scène française, Raphaël Padilla. Genre en Ariel, je vous dis bonsoir si vous nous écoutez dans un taxi, car je sais que vous êtes en route, vous êtes au Ranelagh. Croisons les doigts.
La mandole kabyle de Lounis Haït Mengelet, voici un des nombreux ingrédients que l'on trouve dans le quatrième tome des Sauvages, publié chez Flammarion, ce thriller de politique fiction, que dis-je, cette saga, d'ailleurs bientôt adaptée en série télé, où l'on trouve également pêle-mêle un président de la République d'origine algérienne et en fauteuil roulant, une première dame juive, la marche turque de Mozart, des énarques prêts à toutes les trahisons, du couscous dans les tiroirs du président de l'Assemblée nationale, un aigle noir, une ceinture de cuir tricolore, des armes de poing, et puis les reins brillants d'Aurélie. Oui, il y a tout cela et plus encore dans le nouveau roman d'un jeune auteur ambitieux et qu'on devine sous les traits de son héros, Fouad, un acteur qui plante ses racines dans l'horizon et qui avance au cœur des ténèbres comme chez Conrad, sauf que sa jungle, c'est celle des ors et des ombres de l'Élysée et des crassiers de Saint-Étienne. Bonsoir Sabri Louattar.
Bonsoir.
Thank you.
Les Indes galantes de Jean-Philippe Rameau, la quatrième entrée intitulée Les Sauvages, cette entrée qu'on trouve dans votre roman Sabri Louata, avec le personnage de Jasmine qui prépare une représentation à l'Opéra Garnier. Vous, depuis 2012, vous passez votre vie avec ces sauvages, c'est donc le quatrième tome, et on perçoit dans cette saga à la fois votre goût pour le pur roman, et puis pour les séries télé, leur mécanique endiablée, mais surtout, il m'a semblé qu'on ressent des enjeux réels, et pas seulement scénaristiques. Alors j'aimerais savoir, vous qui êtes, dit-on, véritablement entré en écriture à la mort de votre père atteint du cancer, comme Dounia, la mère de votre héros, vous qui, en cagne au prestigieux lycée du Parc à Lyon, avez fréquenté des Montesquieu, comme le leader, très jeune leader de la droite populiste que vous mettez en scène, quelle part de vous, quel livre de chair avez-vous mis sur la table pour ce quatrième tome ?
C'est intéressant comme question, d'autant plus que... D'autant plus que mon éditrice m'a dit quand t'es en représentation, sois Fouad, alors que j'ai aussi une autre partie de moi-même qui est Nazir. Donc du coup, je suis un petit peu...
C'est-à-dire les deux frères opposés, hein, la lumière et les ténèbres.
Oui, c'est un peu ma version du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde. Mais bon, évidemment, moi je me sens à titre personnel beaucoup plus proche de Fouad, de son énergie, de sa bienveillance, de sa générosité. Et du coup, j'ai complètement oublié votre question.
Ben, c'était qu'est-ce qu'il y avait de vous?
Qu'est-ce qu'il y a de moi dans les...
dans cette histoire?
Non,
parce
je l'ai pas oublié, j'ai parfaitement répondu. Il y a un peu de moi dans les deux personnages principaux.
Et dans votre obsession, notamment des lumières de Saint-Étienne, de ces petits matins?
Oui, non, mais votre présentation était très belle. C'est vrai qu'il y a des Montesquieu, j'en ai connu, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un petit peu, on a coutume de dire que les premiers romans, les écrivains mettent un petit peu tout ce qu'il y a dans leur vie. Alors moi, j'ai pas une vie où il s'est passé grand chose, donc du coup, ça m'a forcé à faire un effort d'imagination, et surtout d'amplification de choses qui étaient minuscules dans ma propre vie. Et c'est vrai que dans ce roman, j'ai mis beaucoup à commencer par ma ville, ma ville de Saint-Étienne. À commencer par mon opéra préféré qu'on vient d'écouter, que j'ai encore en tête. J'ai un petit peu de mal à
que vous chantiez d'ailleurs, hein, pendant qu'on écoutait.
C'est difficile de pas chanter, c'est tellement magnifique. La danse du grand calumet de la paix, c'est le moment où ils se mettent tous à danser une fois qu'ils ont fait la paix, quoi. Quelle paix, évidemment, c'est toute une question. Mais oui, non, vous disiez que j'avais passé beaucoup de temps depuis 2012 avec ce roman, et j'ai aussi passé beaucoup de temps avec cette musique qui a été pour le coup qui m'a vraiment accompagné. J'aime la musique classique, baroque, de manière générale, mais Rameau en particulier. Et c'est vrai que je connais vraiment les Indes galantes par cœur.
Alors même si dans cette danse du calumet de la paix, hein, c'est pour célébrer un mariage, les mariages ça va pas très fort chez vos héros.
Non, en fait, effectivement, je pense qu'il faut qu'on resitue un tout petit peu la position des sauvages, hein, puisqu'on est au quatrième tome. Effectivement, donc on a un président qui est énarque, qui a une formation d'économiste, qui est d'origine algérienne, qui est chaouche, qui va donc diriger la France. Et effectivement, on a deux frères qui sont donc Fouad et Nazir. C'est donc les deux personnes dont vous parliez, donc la part d'ombre et la part de lumière. Et ce qui est intéressant par rapport à notre thème aujourd'hui aussi, qui est ce clown noir qui arrive sur la scène française, ce chocolat, c'est que le personnage de Fouad, donc un des deux frères, qui se trouve sortir avec la fille du président Chaouch, est un héros de la série, à la télévision, un peu d'un soap-opéra, comme ça, c'est une figure populaire qui rallie d'ailleurs des soutiens culturels pour le président Chaouch. Bah, il va avoir une période, vous dites, il se nazirise, c'est-à-dire qu'il va avoir un repli identitaire un peu comme son frère, il en aura marre de jouer l'arabe de service, peut-être un peu comme à sa manière, Chocolat en aura marre de prendre les coups de Foutit, le clown blanc avec lequel il joue. Il va vouloir, dans le film Chocolat de Roche-Dizem, jouer Othello. Dans la vraie vie, c'est Moïse. Ça se passe dans les deux cas au Théâtre Antoine à Paris. Et voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de Chocolat dans la réaction de Fouad à un moment, cœur d'amarre, d'être ce modèle d'intégration un peu lourd, quoi, tellement c'est appuyé.
Si je veux me permettre une blague d'un peu mauvais goût, oui, ce serait plutôt du chocolat blanc, du coup, parce que Fouad n'est pas noir. Mais...
C'est fait, hein, maintenant, c'est fait.
j'aurais dû me retenir. Mais pour le coup, le moment où Fouad se nazirise, ça correspond à toute l'architecture du roman. En fait, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe en France depuis que j'ai commencé à écrire le bouquin. Et mon impression, c'est que ni la sociologie, ni le journalisme, ni aucune science sociale ne peut le dire de façon certaine. J'ai l'impression que ce qui peut véritablement nous faire comprendre ce qui se passe en France, c'est la démonologie, qui n'est pas du tout une science réelle, mais qui consiste à le sentiment qu'un démon s'est emparé de la société française. Ce démon qui a deux faces, un peu comme le dieu Janus. D'un côté, le démon de l'identité... De l'obsession identitaire qui sommes-nous, et de l'autre côté le démon du ressentiment ethnique. Et pour ce qui est de Fouad, il va expérimenter les deux aspects de cette possession démoniaque, et l'aspect de la possession de au moment où vous dites il se nazirise, enfin, vous dites je l'ai écrit moi-même.
Oui, je vais repris votre terme tout simplement.
Donc, au moment où il se nazirise, ça veut vraiment dire qu'il se sent véritablement aliéné, il se sent comme un étranger exotique à ses propres yeux, ce qui est une expérience que beaucoup de gens issus des minorités ethniques ont pu vivre, et d'ailleurs aussi de gens issus de minorités sociales, des gens qui viennent du prolétariat. Au moment où quand on apprend à perdre son accent, quand on apprend à évoluer dans les sphères de la bourgeoisie où on maîtrise aucun des codes, où on finit par quand on a notre mère au téléphone par exemple, et qu'il y a même parfois des sentiments très difficiles à avouer, des sentiments de honte, on se dit c'est pas mon cas, hein, ma mère est géniale. Mais en tous les cas, j'ai souvent pu expérimenter ce genre de choses. Le moment, et qui est un moment terrible, où il y a vraiment une perte d'identité très forte, où on ne sait plus qui on est, parce que celui qu'on veut devenir a fini par prendre le pas sur celui qu'on était.
Et maintenant, mesdames et messieurs, voici le roi nègre Kananga.
Je cherche quelqu'un comme toi, quelqu'un pour renouveler mon numéro.
Tu cherches un nègre ?
Je cherche un clown pour m'assister. Alors vas-y, fais-moi rire. N'importe quoi. Tu crées pas de situation.
Non, 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 là, tu la prennes cette baffe là, comme ça, non.
Hop là. Je suis pas convaincu.
Tu nous laisses une chance.
La première fois qu'un blanc me fait confiance.
Qu'un clown blanc te fait confiance. Unis, comme ça. Tu me lâches pas du regard.
Chocolat, ça sort aujourd'hui sur les écrans, donc le film de Roche Dizaine avec Omar Sy dans le rôle titre de Raphaël Padilla. Retenez bien Raphaël Padilla, car c'est son travail à Gérard Noriel, l'historien aussi, de redonner un nom à l'artiste qui était Chocolat. Donc il y a la version de Roche Dizaine, la version fictionnalisée, mais il y a effectivement un ADN fictionnel très fort dans l'histoire de Chocolat, parce qu'effectivement, vous allez rappeler qu'il arrive en 1886 à Paris, en 1888, c'est déjà une icône populaire. Et ce qui est intéressant dans votre travail, Gérard Noriel, puisque vous venez d'arriver, c'est que vous avez voulu construire un héros. Et ce héros, il est là dans le film, il est là aussi dans votre livre et dans votre exposition, parce qu'il n'y a pas que des Jeanne d'Arc et des Napoléons. Rappelez-nous un peu cette démarche de construction du héros Raphaël Padilla Chocolat.
Oui, eh bien, bonsoir. Mon premier réflexe, ce serait de dire, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'identité, c'est vraiment là une question d'identité. C'est pas son vrai nom, Raphaël Padilla.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc je me bats avec ça, puisqu'on a, vous savez, inauguré une plaque récemment à Paris, Madame Hidalgo, 251 rue Saint-Honoré, où il a vécu. Et on est quasiment obligé de dire, bon, allez, Raphaël Padilla, parce qu'il faut un vrai nom. Mais c'est un esclave qui n'a jamais été émancipé. Il faut le rappeler. Quand même, en pleine République. Donc c'est Raphaël. Le Padilla, c'est le nom que l'employé d'état civil lui a donné après sa mort, parce qu'il fallait remplir la case sur le registre. Voilà. Mais voilà, bon, ceci dit, effectivement, voilà, c'est un
cas. C'est toujours mieux que Chocolat, mais c'est pas encore ça.
Voilà, c'est ça. Mais publiquement, on l'appelait Chocolat. Voilà, c'est ça aussi le jeu de l'identité entre un surnom qui stigmatise sa couleur de peau, qui devient un nom public, un nom d'artiste, mais aussi son nom public. J'ai retrouvé le dossier scolaire, par exemple, de son fils Eugène. C'est marqué Eugène Chocolat. Donc il y a vraiment là
un jeu. Et la veuve Chocolat.
Et la veuve Chocolat. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'elle s'approprie, elle revendique ce nom. Parce que ce nom qui est un stigmate, grâce à son talent de clown, il en fait un beau nom de clown. Les petits-enfants, les petits parisiens de la bourgeoisie cassent leur tirelire pour, quand il est dans la misère, à la fin, pour aider le clown Chocolat. Enfin, donc il y a une histoire, là, effectivement, où ce qui est formidable, et c'est là que, dans ce livre, en tout cas, j'ai essayé de me rapprocher de la littérature, parce que il y a des choses que, disons, l'histoire sociale ou les sciences sociales n'arrivent pas à dire, qui sont à la jonction, justement, c'est-à-dire comment un être humain qui n'a pas, finalement, d'identité, qui doit se conformer au regard que les Français porte sur lui, stigmatisante à l'époque avec le regard colonial, comment il fait pour se débrouiller. Et là, on a un bel exemple aussi de quelqu'un qui arrive malgré tout à construire son autonomie. C'est ça qui est fascinant, vu d'où il vient. Il arrive donc par des moyens qui ne sont pas des moyens d'intellectuels. Il est analphabète quand il arrive, il ne parle pas le français. Et 2 ans après son arrivée, c'est la vedette justement du nouveau cirque dans un spectacle qui s'appelle la Noce de chocolat, qui est un triomphe en 1888.
Sabri Louata, vous partagez avec Gérard Noiriel dans votre tétralogie des sauvages le désir de créer des héros, dites-vous, et pas des gens moyens. Mais j'aimerais qu'on parle un peu de votre méthode. À l'instant, Gérard Noiriel évoque le fait qu'il s'est laissé tenter par la littérature. Il revendique une méthode buissonnière, pas toujours très académique, pour rassembler les faits autour du clown chocolat. Mais vous, qui avez toujours eu le désir d'être écrivain et pas critique littéraire, vous qui, à 13 ans, avez écrit « Mort en haute montagne », un huis clos dans un chalet paralysé par la neige alors même que vous n'aviez jamais mis les pieds à la montagne. Comment est-ce que vous y êtes pris pour reconstituer les corridors parquetés et craquants et plus généralement tout ce monde merveilleusement opaque du pouvoir politique et des opérations clandestines ?
Ça a été l'aspect le plus divertissant de la rédaction de ces 1600 pages, ça a été de pouvoir me documenter, de pouvoir rencontrer des énarques, qui sont des gens beaucoup plus sympathiques que ce qu'on dit, et de rencontrer toutes sortes de gens dans toutes sortes de milieux, des juges d'instruction, moi j'ai vraiment, alors pour le coup c'est une méthode à l'américaine, hein, j'arrive avec mon petit calepin, de temps en temps un micro-espion, pas avec des gens de l'antiterrorisme.
Pas dans le bunker de l'Élysée.
Non, sûrement pas dans le bunker, là où pour le coup j'ai pas mis les pieds, et à mon avis personne a mis les pieds dans le PC Jupiter, comme il s'appelle. Ça a été l'aspect le plus divertissant du roman, parce que je pense que quand on lit un roman, il y a quelque chose de très bête, on a envie de découvrir un monde, en fait. Et pour découvrir un monde, on a envie de faire confiance à la personne qui vous le raconte. Donc c'est des trucs très simples, mais dès les premières pages d'un livre, on entre dans un nouveau monde, il faut que le décor soit planté de façon crédible. Évidemment, c'est toujours un mensonge, les choses ressemblent jamais exactement à... Et surtout, moi, comme vous le disiez, pour moi, un héros, c'est quelqu'un qui a des capacités... largement supérieur aux êtres humains dans la vraie vie. Et je revendique ça. Je revendique pour moi de faire une littérature qui soit maximaliste de ce point de vue. Je pousse le curseur au maximum. J'en fais des tonnes sur les souffrances de mes personnages. Je les rends beaucoup plus endurants qu'aucun autre être humain que je connaisse dans la réalité. Ce que je veux, c'est véritablement montrer des gens qui... Ce qu'a fait le cinéma avec ces fameuses étoiles. Pourquoi c'est des étoiles? Pourquoi ils brillent tellement, tellement fort? C'est parce qu'ils ont des capacités hors du commun, parce qu'ils vivent plus intensément, parce que même leurs rêves sont supérieurs à ceux de l'homme moyen. Alors je sais que c'est pas du réalisme, ou alors c'est du réalisme au sens où le singe conférencier de Kafka, pour moi c'est réaliste. C'est un singe en queue de pie qui donne des conférences géniales. On pourrait se dire c'est pas du réalisme. Et malgré tout, le fait qu'il parle, le fait qu'il souffre de sa condition de singe savant, le fait que quand il rentre chez lui à la fin de cette nouvelle géniale de Kafka, il rentre chez lui et il s'adonne au plaisir de sa race, on a compris ce que c'était, avec une femelle chimpanzé. Et là, tout d'un coup, il se rappelle il a dans les yeux, c'est comme ça que le dit Kafka, l'égarement de la bête blessée. Et bon, j'ai toujours eu l'impression que c'était une nouvelle sur le colonialisme, personnellement. Et ce singe-là, il est incrusté dans la vie. Donc pour moi, à partir du moment où on est incrusté dans la vie, quand il est transporté depuis l'Afrique, l'Afrique avec un grand A, ce fameux continent, quand il est transporté depuis l'Afrique, il est dans une cage, et la cage est suffisamment, là, c'est la perversité de Kafka, la cage est trop petite, trop petite pour qu'il puisse véritablement se tenir debout. Donc du coup, il a les genoux qui... C'est bizarre d'imaginer un singe qui a les genoux qui lui font mal, parce que il est obligé, il peut pas s'asseoir et il peut pas être debout. Donc du coup, il est dans une position d'entre-deux. Ce détail-là, ça le rend vivant, ça l'incruste dans la vie, et donc c'est du réalisme. Et je sais pas pourquoi j'ai divagué là-dessus, mais...
Mais on vous a suivi.
Oui, parce qu'un singe qui parle, qui ne suit pas un singe qui parle.
On suit aussi très bien Gérard Noiriel dans son enquête sur Raphaël, donc on va l'appeler comme ça, le clown chocolat, ce sera plus simple, puisque ce Padilla n'existe pas à part sur le registre de décès. Votre enquête, vous la poussez assez loin, effectivement, dans la mise en scène. On le voit dans l'exposition à la Maison des Matelots qui est présentée donc depuis aujourd'hui à Paris. Des petites vidéos, vous allez à la Havane, essayer dans les sentiers, d'essayer de revivre là où était Raphaël avant donc d'être acheté et de partir sur un bateau. tôt, d'essayer de comprendre aussi quelles sont les transmissions de contre-culture afro-cubaine qu'il a pu recevoir à ce moment-là. Vous enquêtez aussi à Paris, on vous voit, puis vous lui écrivez des lettres dans votre livre, donc Chocolat, la véritable histoire d'un homme sans nom. Vous lui dites par exemple, en 2009, j'étais persuadée que notre conférence théâtrale permettrait de réhabiliter ta mémoire, Raphaël. Mais force est de reconnaître qu'aujourd'hui, nous sommes bloqués. Notre action reste cantonnée dans le monde associatif. En France, l'éducation civique et la culture populaire ne sont pas considérées comme des formes légitimes de création. C'est triste, mais c'est comme ça. Ah, si t'avais été un peintre, un poète ou un comédien d'avant-garde avec un beau pédigré de français de souche, les choses auraient sans doute été plus faciles pour nous. Vous êtes même drôle, Gérard Noriel, je trouve, dans votre écriture. Comment ça s'est passé pour un historien de passer justement à cette histoire scientifique, à cette histoire de la mémoire, comme vous l'appelez?
Mais si vous voulez, faut retracer l'histoire de ce projet. C'est ce que je fais dans le livre. Il y a trois histoires qui sont combinées. L'histoire de l'enquête, parce que c'est une véritable enquête d'investigation sur les traces du clown chocolat.
L'histoire, sur les sources silencieuses du clown
voilà,
chocolat.
Voilà, c'est ça. Donc à La Havane, à Bilbao, etc. L'histoire du chocolat lui-même, de Raphaël. Et puis l'histoire des enjeux de mémoire, hein, puisque ça, pour nous, ça a été extrêmement important. Donc au début, ça, le point de départ, c'est un projet associatif. Hein. J'ai créé une association de culture populaire, Daja. Et donc avec mes amis, on cherchait un projet justement pour sensibiliser les jeunes, notamment à la question des discriminations. Ils m'ont dit, tu connaîtrais pas un personnage historique qui pourrait justement être un héros, etc. Et je me suis souvenu que j'avais lu au détour d'une page d'un ouvrage très savant de l'époque, une référence à ce clown chocolat. Donc c'est comme ça que les choses ont commencé. Et j'étais sur scène, moi, dans la première version du spectacle, avec un musicien, un comédien.
Mais c'était cette première
version du spectacle. Non, c'était avant. Ça, c'est avec Besonné, ça a été la deuxième.
Ah, vous avez voilà. Fait
une première
version.
On avait
version.
Fait une conférence théâtrale qui a tourné pendant plus d'un an, mais dans des petits lieux, hein, dans des centres socioculturels, mais qui avait un peu marqué, enfin je dirais marqué entre guillemets, mais on avait eu quelques articles dans la presse et notamment Télérama avait écrit l'historien mouille sa chemise, hein, donc c'était un petit peu le truc, le clown et l'historien, ils avaient fait, enfin vous voyez, il y avait beaucoup de choses à faire, et finalement c'est à partir de là qu'un producteur de cinéma a découvert cette histoire-là, donc c'était avant même que je publie mon premier livre, qui était un livre qui, je dirais, respectait toutes les règles de la méthode, disons, historique, et qui me permettait donc de me libérer après pour faire ce que j'ai fait là, qui est effectivement plus à la jonction de l'histoire de la littérature, tout en restant enfin dans les cadres du réalisme historique, j'allais dire.
Mais à cet égard, Gérard Noriel, est-ce que vous vous sentez d'une certaine manière l'héritier soit d'un Michelet, soit d'un Ginsberg ou de Corbin avec Pinago et toute cette entreprise de la micro-histoire?
Bah, disons, pour Pinago, justement, je dans une première version du livre, il faisait 650 pages, j'ai réduit. Mais dans la première version, je faisais référence à Pinago et à Corbin, qui dont son pari, lui, c'est de faire une biographie, justement, de quelqu'un situé, enfin, d'un inconnu, anonyme, etc. Moi, j'ai poussé le bouchon encore plus loin, parce que lui, il commence son livre en disant, il a existé, il a un état civil. Alors moi, il n'a pas d'état civil. Voilà. Et pour Michelet, effectivement, le petit clin d'œil, c'est que Michelet, on disait que Michelet dialoguait avec les morts. Vous savez, il allait aux archives et dialoguait avec les morts. C'est pour ça que moi, je dialogue avec Chocolat. Sauf que c'est un dialogue à sens unique. Et il y a une forme de métaphore dans l'ouvrage. Je me demande à plusieurs reprises, mais pourquoi il me répond pas? Et pourquoi il me répond pas? Et donc, on apprend au fur et à mesure du livre que s'il ne répond pas, c'est qu'il y a un double interdit qui pèse sur lui. Un, il était mime, hein, au départ, c'est un mime. Il arrive en France, il parle pas le français. Imaginez un travailleur immigré africain aujourd'hui ne parlant pas un mot de français et qui, 2 ans après, est la vedette d'un spectacle dans la plus grande salle de spectacle de Paris. Donc, mais il y a cet interdit qui pèse sur la parole. Puis en plus, évidemment, il est immigré, il est noir. Donc, quand il va vouloir prendre la parole, c'est le début de la chute, hein, pour lui. Parce que, voilà, il y a la volonté de passer au théâtre. Hein, on le voit bien dans le film aussi. C'est-à-dire qu'il est clown. Mais il est hanté par la question de savoir s'il est célèbre parce qu'il a du talent ou parce qu'on se moque de lui parce qu'il est noir. Comme c'était le cas à l'époque. Donc, le défi pour lui, c'est un homme de Paris, hein, toute sa vie, il a fait des Paris, c'est de réussir à être reconnu comme comédien. Et c'est là que le défi échoue.
Moi, j'ai une question pour vous. Il y a un document qui est reproduit dans cette exposition à la Maison des Métallos à Paris, d'un clown chocolat député. C'est dans un papier donc d'un journal plutôt monarchiste. C'est que le clown chocolat qui répond de manière assez, on va dire, comme un sorte de prédécesseur de Coluche aux questions du journaliste en imaginant ce qu'il pourrait faire à l'Assemblée nationale. Ça a existé, c'est un délire ou c'est un délire de journaliste?
C'est pas lui vraiment qui répond, c'est le journaliste qui met en scène.
Voilà.
Donc c'est dans Le Gaulois, un journal monarchiste, donc anti-républicain, qui veut stigmatiser les parlementaires républicains parce que certains de leurs candidats sont d'origine étrangère. Alors à l'époque, c'est des Belges, d'origine belge ou italienne. Hein. Mais donc il dit, bah, pourquoi pas Chocolat ? Chocolat va être le personnage, moi on a appelé ce panneau les guignols de l'info.
Oui, il est très intéressant. Que,
voilà, voilà, on voit comment ils étaient utilisés pour caricaturer les hommes politiques. Je veux dire, on allait chercher Chocolat pour, à chaque fois qu'on voulait pousser le trait vraiment loin, hein, on dit les clowns de la politique, bah, alors là, que c'était Chocolat, c'était au carré, je dirais. Donc il y a tout un usage du clown Chocolat et de Footit aussi, hein, puisque c'est le duo, pour caricaturer la vie politique, effectivement, à cette époque-là.
One, two, three.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui dialogue avec les morts et les vivants.
Les vivants comme Marcel Bozonnet, on en reviendra à cette première représentation, un théâtral autour du clown Chocolat, et puis avec Sabri Louata pour son quatrième tome, la tétralogie des sauvages.
Mais tout de suite, il est l'heure de retrouver Émilie Chaudet pour son journal de la culture. Bonsoir Émilie.
Bonsoir Martin, bonsoir Mathilde.
Bonsoir Émilie.
Bonsoir à tous.
Alors ce soir, Émilie, dans votre journal de la culture, au cœur de ce journal, il est question dans votre dossier d'un théâtre des opérations qui pose question. On n'est pas chez Sabri Louata avec comme ça des officines et des barbouzes, mais en tout cas un nouvel article de loi destiné à pénaliser les exportateurs, vendeurs et acheteurs de biens pillés sur les sites archéologiques et artistiques en général.
Oui, c'est un texte qui s'inscrit dans le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé et l'efficacité de la procédure pénale, projet validé il y a une semaine par le Conseil d'État et présenté aujourd'hui au Conseil des ministres. Et parmi tous les éléments présentés dans ce projet de loi, eh bien, il y a un article qui pourrait punir de 5 ans de prison ou de 75 000 euros d'amende toute personne qui se livrerait à du commerce ou à du recel de biens culturels provenant, je cite, d'un théâtre d'opération de groupement terroriste. Alors, derrière ces termes très généraux, on peut facilement imaginer qu'il s'agit de sites archéologiques irakiens ou syriens qui ont été largement pillés et dévastés ces derniers mois par le groupe État islamique. Mais en fait, cette appellation est loin d'être si claire. C'est l'avocat Alexis Fournol, spécialiste du droit de la propriété intellectuelle et du marché de l'art, qui a pointé le caractère flou de cette notion dans un article publié dans le Journal des Arts. Qu'est-ce qu'un théâtre d'opération de groupement terroriste, sinon une zone par définition instable, mouvante et donc en fait jamais vraiment définissable? Donc un texte qui, s'il est inscrit dans le code pénal, devrait être clarifié, précisé, s'il se veut efficace contre le trafic d'art imputé à Daesh.
Même si c'est mal rédigé, je trouve l'idée assez juste de dire, voilà, vous êtes marchand, vous savez les risques auxquels vous vous exposez, vous savez que vous pouvez participer au financement du terrorisme par ce biais, donc montrez-nous que vous avez pris toutes les précautions pour éviter cette situation. C'est ça finalement ce qu'on est en train de créer. Maladroitement, je trouve, mais c'est cette idée-là qui poursuit.
Alors cette zone instable, hein, aux mains des terroristes, ça pourrait d'ailleurs être la France, si on suit Sabri Louata et les réflexions de ces personnages. Et comme on vient de l'entendre, Émilie, l'avocat préfère retenir la notion de responsabilisation, mais toujours est-il que cette notion étrange et peu précise est tout de même passée lors des débats parlementaires.
Oui, donc en fait, ce qui est à craindre, c'est que des objets d'art volés, par exemple, sur le site de Palmyre, en Syrie, puissent être blanchis par des marchands de pays limitrophes qui ne se trouveraient donc pas sur ces théâtres d'opérations de groupements terroristes. C'est en tout cas ce que l'avocat Alexis Fournol dit craindre. Et donc, pour s'attaquer au volet de la vente d'antiquités volées dans ces régions sous contrôle du groupe terroriste, il faudra en fait reformuler le corps de cet article, le repréciser au maximum, car il faut savoir que la revente d'œuvres pillées par le groupe État islamique dans ces zones qu'ils contrôlent, ça représente pour eux leur seconde ressource financière la plus importante après celle du pétrole, selon un rapport du service de recherche du Congrès américain. Et ces objets d'art pillés circulent en nombre sur le marché international, comme a pu le vérifier l'archéologue et spécialiste du Moyen-Orient, Marc Altawil, qui, pour les pages du quotidien britannique The Guardian, a écumé les marchands d'art et dit avoir trouvé très facilement des œuvres en provenance de Syrie ou d'Irak.
Il y a deux problèmes. Le premier, c'est l'identification des objets qui viennent de Syrie et d'Irak. J'en ai cherché moi-même, et sans aucun doute, je peux affirmer que l'on peut trouver des objets d'art qui viennent de Syrie ou d'Irak. Ils sont très reconnaissables. Le second problème, c'est que même si vous les trouvez, ces objets qui viennent de Syrie ou d'Irak, ce qui est plus difficile à prouver, c'est le moment auquel ils sont arrivés ici. C'est une question essentielle. Parce que si ces objets sont arrivés en Angleterre, avant que leur importation ne soit devenue illégale, ils ont techniquement le droit d'être vendus là. Alors à moins qu'un vendeur ne vous fournisse ces informations, il n'y a aucun moyen de savoir quand est-ce qu'une œuvre ou un objet est arrivé ici. Et la plupart du temps, les vendeurs d'art préfèrent ne rien nous dire pour éviter des problèmes. Donc identifier la provenance de ces objets n'est pas en soi une preuve que ce soit l'État islamique qui les volait. Ce que j'aimerais, c'est que l'on puisse mettre en place un système de contrôle global, du moins pour les plus grosses pièces d'archéologie ou d'art, tout comme c'est le cas dans l'industrie agroalimentaire. Quand vous allez dans un magasin, vous devez pouvoir vous renseigner sur la provenance des produits, parce que si vous ne pouvez pas remonter jusqu'à leur origine, vous prenez un risque. Cela devrait donc être pareil pour les antiquités. On devrait tous savoir d'où elles viennent. Quand est-ce qu'elles sont arrivées sur notre sol? Car elles aussi peuvent être dangereuses. L'argent de leur achat peut directement profiter à Daesh.
In fine, Émilie, devant la difficulté à enrayer ce marché, ou même déjà à le contrôler, beaucoup de chercheurs se disent tout simplement hostiles à la simple loi.
Il existe même une organisation de Monuments Men du XXIe siècle, tout comme ces soldats américains qui ont essayé de préserver des œuvres d'art du pillage nazi. Eh bien, ces Monuments Men contemporains luttent clandestinement sur les terrains syriens et irakiens et sont coordonnés par l'archéologue syrien Amer El-Azem, réfugié dans l'état de l'Ohio. Et pour le moment, il n'y a que des étudiants en art et des archéologues pour vouloir et pouvoir les aider. Eux qui sont confrontés au pillage systématique du patrimoine de leur pays et au flou juridique et à l'impuissance de la communauté internationale face aux exactions de Daesh. Précisons aussi qu'une start-up française a proposé dernièrement la numérisation de ces sites, pillés pour reconstituer et conserver leur mémoire.
Oui, on en avait parlé dans le journal de la culture. Ici, c'est à retrouver sur la page de Ping Pong sur France Culture, bien sûr. On passe au bref, Émilie. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est la colère de certains auteurs de BD.
Et oui, tout ça à cause d'une annonce du ministère de la Culture qui a choisi de distinguer 8 auteurs de BD en les nommant chevaliers des arts et des lettres. Plusieurs d'entre eux dénoncent une récupération politique et ont choisi de refuser cette décoration. C'est notamment le cas des dessinatrices Tanks, Aurélie Néret, Julie Marot ou Chloé Cruchaudet, l'auteur de Mauvais Genre qui a fait savoir sur son profil Facebook que tous les auteurs choisis sont comme par hasard signataires d'une charte contre le sexisme dans le milieu de la BD. On dirait, dit-elle, qu'ils ont pioché au hasard dans le tas. Quant aux dessinateurs Riyad Satouf et Mathieu Sapin, ils ont fait savoir qu'ils accepteront la distinction.
Le film Antichrist, privé de son visa d'exploitation.
Et oui, ça rend sa diffusion au cinéma illégale ou même sur tout autre support, DVD, même individuel. C'est l'association Promouvoir qui avait saisi la justice. Même association proche des milieux catholiques intégristes qui a obtenu l'annulation dernièrement du visa de la vie d'Adèle d'Abdelatif Kechi, donc il y a 2 mois. Antichrist, c'est le film réalisé par Lars von Trier en 2009 avec Charlotte Gainsbourg et William Dafoe et qui comporte des scènes de très grande violence et de sexe non simulé selon les mots de la Cour, qui a ajouté que la ministre de la Culture a commis, je cite, une erreur d'appréciation en se bornant à interdire sa diffusion aux seuls mineurs de moins de 16 ans.
L'écoute en ligne comptabilisée pour les disques d'or.
L'instance de représentation de l'industrie musicale a décidé en effet de faire valoir 1500 écoutes en ligne comme un achat de plus. Un disque d'or, un disque devient d'or au bout de 500 000 exemplaires vendus, 1 million pour un disque de platine. Donc une petite réforme qui au passage consolide le statut de l'album Thriller de Michael Jackson en tant qu'album le plus vendu de tous les temps.
Merci Émilie. À propos de Michael Jackson, on vous retrouve dans quelques instants à 19h50 pour le disque du jour.
Je vais essayer.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
How you son? He made the team this year. He said he wasn't tall enough.
All the glitter is not gold. It's not reality. All the glitter is what you need.
Family Business, chanté par Kanye West. Il y a énormément de correspondance, d'écho entre vous, Sabrina Loata et Kanye West, parce que bien sûr on trouve ce morceau dans le 4e tome des Sauvages, avec une reprise, une cover signée du personnage Krim. Et puis on le sait, Kanye West a décidé de rapper de ses propres ailes, c'était sur l'album The College Dropout, Arrêtez la fac, ce que vous avez fait aussi. Et puis comme vous, il aime échantillonner, utiliser des samples comme on dit en américain, on l'entend là avec des voix qui rajoutent dans sa musique. Vous, vous échantillonnez toute la littérature, mais aussi, voilà, on en parlait, les séries télévisées pour composer votre style. Mais au fond, à propos de ce family business, ce qui pique ma curiosité, c'est le fait que vous avez pu déclarer « J'en ai soupé des familles arabes, je suis un individualiste et je n'appartiens à aucune communauté. » Pourtant, la famille Nerouche, elle est au cœur de cette tétralogie des sauvages donc, que vous publiez chez Flammarion. J'aimerais que vous nous parliez de l'importance de cette famille et de toutes ses ramifications.
Non, non, mais quand j'ai dit ça, c'était parce que la journaliste très gentille, Dalia Daoud, me demandait est-ce que votre prochain bouquin, il y aura encore une autre famille arabe et ainsi de suite. Et enfin, je veux pas devenir non plus l'expert, le type qui écrit des romans uniquement sur des familles arabes. Là, j'ai choisi une famille qui était, enfin, c'est mon premier roman, un premier roman.
Une famille kabyle, stéphanoise. Voilà, un peu comme la vôtre.
Oui, en plus, c'est vrai, moi j'utilise sans cesse alternativement arabe kabyle, enfin juste pour varier, parce que pour moi tout ça veut rien dire, c'est vraiment une famille française dans mon bouquin pour le coup, et c'est même en plus comme enfin je me souviens avoir lu récemment Patrick Veil, un de vos collègues, qui disait quelque chose de très juste, qui disait les Algériens, la colonisation algérienne a duré 130 ans, donc je veux dire moi je suis un petit-fils d'immigré, donc l'immigration c'est pas mon histoire, et donc mes grands-parents ont émigré, d'ailleurs j'aime mieux utiliser le mot émigré
comme pour les Russes,
comme les Russes blancs. Encore une fois, je salue ma femme qui est russe blanche et qui, au bout d'un moment, troisième génération, je pense que c'est plus notre histoire. C'est bon, alors il se trouve que on a tendance à faire. Et Patrick Bell disait quelque chose de très juste. Il disait, mais pendant 130 ans, les Algériens étaient français. C'était des Français de seconde zone peut-être, des indigènes, mais ils étaient quand même français. Donc, alors les gens qui sont là. Qui est français depuis le plus longtemps possible. Moi, c'est vraiment des questions qui m'intéressent pas. Je pense que un pays, c'est d'abord un pays. C'est d'abord les gens qui y vivent. C'est tout à l'heure. Désolé, je peux pas ne pas réagir. L'association Promouvoir qui fait encore des siennes. Alors, on parle toujours du communautarisme. On parle toujours du. Je me demande parfois si le communautarisme blanc de ce qu'on appelle les Français de souche. Je me demande s'il est pas plus dangereux au bout du compte. Parce que pour le coup, il peut atteindre une majorité. Alors que les minorités ethniques qui ont tendance un petit peu à se plier sur elle-même et à se retrouver autour de certains signes, que ce soit des signes un peu grotesques, genre les jeunes adolescentes qui mettent un voile, généralement le customisant. Ça, bon, enfin voilà, on va même pas en faire, ça menace pas la République. Mais ce qui, à mon avis, peut beaucoup plus menacer la République, c'est si jamais une forte majorité de la population qui se considère comme légitime par rapport aux autres, si jamais elle commence véritablement, elle, à être dans un sursaut identitaire, là, je pense qu'on a vraiment le dissocié à se faire.
Et on entendait d'ailleurs dans le rappel des titres de Stanislas Vazak des agressions à caractère islamophobe ont à nouveau eu lieu en France.
En tout cas, dans Les Sauvages, ça s'appelle l'ADN. Hein. C'est ce bloc identitaire entre l'extrême droite et la droite dure qui se forme dans votre livre Les Sauvages.
Oui, l'Alliance des droites nationales qui donne le jeu de mots ADN. Il y a un petit peu trop de jeux de mots parfois. J'ai regardé tout à l'heure sur Google Trends. Donc, je veux dire, on regardait.
Les tendances de Google.
Les tendances de Google. Cela étant, ça s'appelle Google Trends. Et j'ai regardé deux mots arabes dehors. En Corse, on dit ça arabiphora. J'ai regardé arabe dehors, le nombre de fois où ça avait été cherché dans Google en 2015. Et alors, pendant à peu près 11 mois, en gros, il y a deux pics où les mots arabe dehors ont été cherchés ensemble de façon, mais vraiment spectaculairement supérieure au reste de l'année. C'est au moment des attentats. Au moment des attentats de Charlie Hebdo, de l'hypercacheur, au moment des attentats du 13 novembre. Donc, ça dit aussi quelque chose. C'est une obsession. Moi, je pense qu'en regardant les statistiques de Google, on comprend beaucoup de choses à la fois à l'âme humaine et à la société, aux sociétés dans lesquelles on vit. Et là, ça m'a vraiment paru spectaculaire. On a tendance à parler souvent de l'islam, avec les fameux ne faisons pas d'amalgame et tout. Mais la vérité, c'est que ces amalgames sont faits et que sous le vocable musulman, dont on peut disserter, étant donné que c'est une religion et qu'une religion, c'est un ensemble aussi de concepts et d'idées. Donc, on peut en parler tranquillement, alors qu'on peut beaucoup moins parler tranquillement de arabe. Mais Google nous dit ce dont on ne peut pas parler dans le débat public. Et là, en l'occurrence, on voit bien que au moment où il y a des attentats terribles qui se produisent, arabe dehors est le mot le plus spectaculairement cherché.
Gérard Noriel, l'historien de l'immigration que vous êtes et qui cherche par
et de l'émigration.
Et de l'émigration, bien sûr, qui cherche par son travail sur le passé à nous proposer une vision du monde que peut l'histoire. C'est la question de Patrick Boucheron dans sa leçon inaugurale au Collège de France. Vous avez notamment rappelé aussi cette xénophobie qui se reporte sur différentes populations, ces mécanismes. Vous soulignez comment les OS maghrébins en grève dans les usines automobiles sont accusés d'être influencés par les groupes religieux de Roménie en Iran. On a aussi la violence de la fin du 19e à l'égard évidemment des juifs qui va revenir aussi en 1930. Hein, on les accuse de tous les maux, de quelques-uns causés par la communauté. Et ce qui est intéressant dans l'histoire de Chocolat, c'est que vous allez souligner un paradoxe pour lui, c'est que ça progresse après l'affaire Dreyfus. On prend conscience finalement qu'il faut être plus proche évidemment des droits de l'homme et la société va évoluer. Du coup, finalement, les numéros racistes de Foutite et Chocolat vont perdre en succès. C'est le paradoxe de Chocolat et c'est le point positif pour la société
française.
C'est le paradoxe,
mais en même temps, j'ai passé beaucoup de temps à déconstruire le discours dominant qui était justement consistait à présenter Chocolat comme le souffre-douleur de Foutite. Ça, en fait, c'est la représentation qui a été fixée par Toulouse-Lautrec dans les caricatures et qui ne correspond pas à la réalité. C'est-à-dire, quand vous faites un travail, comme j'ai fait, j'ai passé des années à essayer de comprendre ce que ça voulait dire, le cirque, la gestuelle, etc., et que vous regardez ça de près, y compris les films des Frères Lumière, hein, puisqu'on a parmi nos archives des petits films des Frères Lumière.
Incarnés par les frères Podalydès, à l'époque.
Voilà, sur les sketchs de Foutite et Chocolat. Vous voyez qu'en fait, dans leur numéro, l'échange de coups, il est beaucoup plus partagé qu'on ne pourrait le dire. Mais ça, si vous voulez, comme les élites n'allaient pas au cirque, hein, ils ont intériorisé l'image que Toulouse-Lautrec leur a transmise. Et quand il y a eu l'affaire Dreyfus, effectivement, dans la période antérieure, les Noirs, on n'est même pas au stade du racisme. Le racisme, à l'époque, c'est à l'égard des Juifs. Hein, l'antisémitisme est très fort, il y a une violence terrible à l'égard des Juifs de la part des antisémites. Mais Chocolat, à la limite, lui, il n'existe pas comme être humain. Chocolat, justement, c'est guignol. C'est pour ça que les gens se permettent par exemple, Toulouse-Lautrec le caricature en singe sans avoir la moindre mauvaise conscience. Et donc, avec l'affaire Dreyfus, notamment, je pense notamment aux intellectuels juifs qui souffraient d'un côté de l'antisémitisme, mais qui étaient les premiers à faire des blagues sur Chocolat. Il y a toute une série d'exemples que je cite, parce que Freud a expliqué ça. Hein. Voilà, pour s'intégrer, il faut avoir un troisième larron dont on va se moquer.
Le fameux esprit voilà, parisien.
C'est ça, voilà. Et donc, Chocolat en fait les frais. Donc l'affaire Dreyfus, prise de conscience, c'est ça, toute la politisation, c'est ce que produit l'affaire Dreyfus, c'est que au-delà des juifs, on va élargir hein, le sort des personnes stigmatisées. Et c'est à ce moment-là que on se dit ah bah oui, il y a les Arabes, il y a les Noirs, etc. La Ligue des droits de l'homme se crée et tout. Et donc du coup, surtout du côté de, je veux dire, c'est frappant chez l'élite juive, hein, qui ils se disent, ils ont une sorte de culpabilité par rapport à ce qu'ils avaient dit, écrit, dessiné sur le clown Chocolat avant. Alors donc ça crée effectivement l'affaire Dreyfus. Dreyfus est très négatif pour lui parce qu'à ce moment-là, on se dit on ne peut plus montrer un noir frappé par un blanc sur une scène française, ça c'est bon pour les sauvages de Yankee et pour donc les pogroms qu'on dénonce fortement en France. Nous payons des droits de l'homme, on fait pas ça. Donc du coup, Foutite et Chocolat qui ont été réduits à ça, alors que ce n'est pas que ça. J'insiste beaucoup là-dessus.
Mais justement, on va écouter
on
Marcel Bozonnet
là-dessus. Le film, et puis Bozonnet, on avait travaillé là-dessus aussi. Voilà. Donc ça, c'est très très important, ce basculement de l'affaire Dreyfus.
Donc ça, c'est un billet du journal Le Matin. C'est une description de Foutite et Chocolat. Chocolat est votre antithèse. Il est noir et vous êtes livide. Votre figure est maigre et volontaire. Son visage est rond et débonnaire. Votre voix est aiguë et précise. Ses paroles sont graves et indistinctes. Vous êtes le jour et Chocolat est la nuit. Vous êtes la volonté et il est la passivité. Vous êtes la fantaisie et il est la tradition. Vous êtes la force et il est la faiblesse. Aussi, vous l'insultez, vous le giflez, vous le rouez de coups, vous l'arrosez du jet d'un siphon, vous promenez malicieusement des flammes sur sa main, vous proclamez ainsi votre droit absolu d'employer l'eau et le feu contre ceux qui n'ont pas notre mentalité. Tu lis ça, t'as l'impression que l'autre voilà. est une nullité, est une merde. Voilà. Et quand tu vois les 8 ou 10 frères des Frères Lumière, c'est un artiste élégant, voilà. C'est un artiste dont qu'on peut dire distingué ouais. Et dont on sent qu'il maîtrise parfaitement le mouvement, qu'il écrit quelque chose avec son corps. Et il est bien sûr l'égal de Foutite. On ne construit pas un numéro avec quelqu'un qui vous est inférieur du point de vue de l'art. C'est dingue.
C'est dingue. Tandis que vous entendez cette polka composée pour Footit et Chocolat, hein, de Laurent Grier, qu'on retrouve dans votre exposition, Gérard Noiriel, sur le Clown Chocolat à Paris, à la Maison des Métallos. On a entendu aussi un extrait d'un documentaire qui sera diffusé sur France 3 autour du clown Raphaël, appelons-le ainsi, et le metteur en scène Marcel Bozonnet, qui avait fait cette pièce en 2012 au Bouffe du Nord à Paris, qui donc souligne l'artiste qu'il est, ce Nijinsky noir, hein, comme il le dit. Est-ce que justement votre travail d'historien, ça n'a pas été de démêler tous ces écheveaux pour ramener, on va dire, Raphaël à ce qu'il est comme grand artiste populaire et ramener ce patrimoine culturel oublié?
Oui, ce que je voudrais dire, rendre hommage à Marcel Bozonnet, puisqu'on a travaillé beaucoup ensemble, hein, pendant près d'un an pour ce spectacle, pour cette pièce de théâtre qui s'appelait Chocolat Clown Nègre. Et c'est grâce à Marcel Bozonnet, à d'autres artistes, que moi j'ai peu compris ce que c'était qu'une scène, qu'une piste, qu'un symbole, qu'une mise en scène. Et je dis ça à mes collègues historiens, sortez un peu de vos archives.
Prenez un petit calepin comme ça, Brigotin.
Voilà, c'est ça. Écrivez des romans. Enfin, je veux dire, voilà, quand on fait de l'histoire sociale ou de l'histoire culturelle, voilà, moi je comprenais rien au début, je le dis dans le livre. Au début, je fais une erreur monumentale dans l'interprétation de son rôle, parce que j'ai pas compris la gestuelle. Et je retourne après à la cinémathèque, je regarde de nouveau les numéros et je vois la signification, comme disait Marcel, de ses gestes, à la fois le talent, mais aussi la contestation. Bon, c'est pas dans une forme de gestuelle, des pieds de nez, des galipettes, enfin des toute une série de gestes comme ça. Toujours il y a un petit truc en disant attention, je résiste, si vous voulez. Et ça c'est formidable, mais il faut avoir travailler avec des artistes pour comprendre aussi ça.
Ping-pong. La culture sans limite.
On passe au disque du jour, Émilie, avec de la musique des anciens esclaves de La Réunion. Une musique longtemps interdite, le maloya.
Et oui, ce disque du jour, c'est un disque que notre réalisateur et programmateur musical Thomas Beau aurait voulu diffuser toute cette semaine, tellement il a aimé. Alors ça promet. Alors déjà, sur la pochette de ce disque, il y a le visage et le regard noir de cette chanteuse qui vous saisit dès la pochette. Un visage avec cette crinière afro et cet air d'Angela Davis ou d'une icône de la Blaxploitation. Je vais y arriver. Et puis, il y a aussi cette voix grave, douce et profonde issue donc, Mathilde, comme vous le disiez, du maloya réunionnais. C'est donc Christine Salem qui signe ici son sixième album, L'Arc Balle au Corps, j'ai vraiment du mal ce soir, où il est question de combat pour l'égalité, de combat contre le sexisme, des ravages de l'alcool, du sida et même d'un hommage à Nelson Mandela. Alors on écoute tout de suite le titre Dada.
La ville est en sida. Eh nada, sida da, si. Sida le la nada. Eh nada, sida da. La capote la vie. Sida da, la vie la capote. La ville est en sida. Dada, si dada, non dada, si dada, le coléon si dada, si dada, si dada, mi connaît pi dada, si dada, laisse-moi la dada, si dada, si dada, si dada, la trappe dada.
C'était donc Dada de Christine Salem, avant-dernier titre de son album Largue pas le corps, ça y est j'ai réussi, sorti chez Blue Fanal et Zamora. Et Christine Salem sera en concert ce samedi à l'Alhambra à Paris.
Merci beaucoup Émilie Chaudet. Demain, on devrait compter sur le retour de Zoé Svez.
Je vais la libérer.
Qui n'a pas largué son corps tout à fait et qui reviendra nous présenter le journal de la culture et le disque du jour.
Ping-pong. C'est déjà fini.
Et ça n'a absolument rien de comique ou de clownesque. Merci beaucoup à tous deux, Gérard Noiriel, Sabri Louata. Sabri Louata, vous signez donc le 4e tome des Sauvages, votre roman de politique fiction, cette tétralogie publiée chez Flammarion Versilio. Et puis pour l'adaptation en série télé, il faudra attendre dans le meilleur des mondes possible l'année 2017. Quant à vous, Gérard Noiriel, on peut donc découvrir l'exposition à la Maison des Métallos, On l'appelait Chocolat. C'est jusqu'au 28 février. Et puis vous publiez cette biographie romancée, romanesque, qui a des airs de Michelet et que sais-je encore, Chocolat, la véritable.
Ce roman vrai, comme dit Romain Bertrand, autre historien.
Chocolat, la véritable histoire d'un homme sans nom. Et puis, vous avez participé en qualité de conseiller historique au film Chocolat, qui sort en salle aujourd'hui avec Omar Sy dans le rôle principal.
Le ping-pong est un numéro radiophonique qui se joue en équipe. Et quelle équipe ? À la rédaction, Aïchat Wendoy, Hélène Delier, Selena Terré, à la réalisation et la programmation musicale, Thomas Beau, à la prise de son ce soir, Thibaut Germez et Anthony Thomasson.
Le ping-pong se pratique également sur le réseau interconnecté sur notre nouveau site Flambant Neuf et qui vous permet de réécouter jusqu'au bout de l'éternité, pendant l'éternité et un jour, franceculture.fr. Mais quid de notre beau lendemain, Mathilde ?
Demain, revue renaissante et électro-florissante avec la nouvelle quinzaine littéraire menée par Tiffen Samoyo et le projet transsibérien du musicien Tilassine.